Vous êtes le fondateur, directeur du média Frontières. Et vous êtes un journaliste condamné en première instance. Vous avez fait appel de la décision, donc vous êtes un journaliste condamné en première instance, mais présumé innocent, puisqu'on va respecter l'état de droit, bien sûr. Et vous avez décidé de faire appel. Qu'est-ce qu'il vous est arrivé? Ça s'est passé cette semaine. Vous avez été condamné en première instance par le tribunal correctionnel de Bobigny à 6 mois de prison avec sursis. Je lis la dépêche de l'AFP, média de confiance, pour avoir divulgué les données d'avocats spécialisés en droit migratoire. Que vous est-il arrivé, Éric Tegner?
Alors bonjour Elliot, merci de me recevoir. Ce qui m'est arrivé, c'est simple, c'est un immense scandale. Je vais vous expliquer, j'ai été condamné non pas pour diffamation, non pas pour injure publique, non pas par exemple pour injure à caractère racial, ce qui fait partie en règle générale du droit de presse. J'ai été condamné sur le fondement de la loi Samuel Paty, c'est-à-dire qu'ils ont cherché à utiliser une loi qui originellement a été construite pour éviter qu'il y ait à nouveau des drames comme l'attentat terroriste islamiste contre Samuel Paty. Et pour la première fois, c'est historique, ils ont choisi de condamner donc un journaliste sur ce fondement. Pourquoi? Parce que on m'accuse d'avoir fait ce qu'on appelle du doxing sur les avocats en droit des étrangers. Il y a un an, nous, on a créé un grand magazine de 160 pages, une enquête pour comprendre pourquoi parfois un clandestin violeur sous OQTF voit sa décision d'expulsion du pays donnée par le préfet être cassée devant le tribunal administratif. Donc on a tout analysé et on est tombé notamment sur les avocats en droit des étrangers. Et pourquoi c'est une fake news de dire qu'on a pratiqué du doxing? Parce qu'on voit sur les réseaux sociaux depuis hier des gens qui disent que j'aurais révélé les données personnelles de ces avocats. Nous n'avons jamais divulgué les adresses personnelles des avocats. Nous n'avons jamais délivré non plus les adresses des bureaux de ces avocats. Nous nous sommes contentés de parler du nom de ces avocats et de dire où est-ce qu'ils travaillaient, dans quel tribunal. Pourquoi? Parce qu'on a analysé entre octobre et novembre 2024 près de 5500 décisions de justice devant les tribunaux administratifs. C'était un travail qui n'a jamais été fait en France. On a pu voir par exemple que dans des tribunaux administratifs comme celui de Chalon-sur-Saône, un clandestin avait 55% de chance de gagner lorsqu'il allait contester avec des avocats certaines décisions de la préfecture. Eh bien, parmi ces tribunaux administratifs, on a pu voir quels étaient les avocats les plus présents. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons lié ces avocats aux juridictions dans lesquelles ils exerçaient.
Alors, l'autre scandale dans le scandale, je reprends le terme que vous avez employé, Éric Tegner, c'est que depuis quelques heures, on vous accuse, entre guillemets, de mettre une cible dans le dos, non pas des avocats, mais du juge qui vous a condamné, de l'un des trois juges présents au moment de ce procès. Or, et je l'ai précisé avant la publicité, c'est l'AFP, l'agence France Presse, qui, dans sa dépêche du 18 juin 2026, j'avais même l'heure, à 16h46, une longue dépêche pour expliquer la décision judiciaire, parle de Youssef Bader, donc le président du tribunal, qui a souligné visiblement Éric Tegner, ne pouvait ignorer que la publication était susceptible de causer des comportements violents à l'égard des avocats. Et en creusant un petit peu Éric Tegner, on découvre que ce magistrat est un magistrat qui est impliqué médiatiquement dans la vie associative et qui a des convictions également qu'il défend, notamment sur ses réseaux sociaux.
Oui, totalement. Et je vais vous raconter un peu les coulisses de comment j'ai découvert tout ça. Ça va permettre de montrer à vos téléspectateurs comment en ce moment, il y a vraiment une propagande qui est mise en place. D'abord, je mets au défi quiconque de trouver sur mes réseaux sociaux le nom de ce juge. Je n'ai en effet jamais donné le nom de ce juge. Je ne savais pas, quand j'ai passé 12 heures d'interrogatoire avec lui, qu'il était politisé. Et en fait, en effet, il y a eu la dépêche de l'agence France Presse qui a été reprise par toute la presse, par Ouest France, également par la journaliste du Parisien qui connaît pourtant ce juge, hein, donc qui a considéré que finalement, c'était pas un problème de sortir son nom. Et c'est parce qu'il était public que beaucoup de gens ont commencé à m'écrire en me disant « Mais attends, c'est ce juge qui t'a condamné ?» Et j'ai commencé à recevoir des centaines de messages de gens qui m'envoyaient en effet les interviews de ce juge chez Al Jazeera, le média qatari. En termes d'ingérence étrangère, on connaît leur position. Chez Mediapart, chez Radio Nova, le média quand même de Mathieu Pigas qui montre des objectifs politiques pour la prochaine élection présidentielle. Il n'y était pas ce juge il y a 5 ans chez Radio Nova. Il y était fin février de cette année, quelques semaines avant mon procès. Donc moi, je suis tombé de ma chaise parce que je suis un grand naïf. Jamais j'aurais imaginé que je puisse être jugé par un juge qui finalement assume des convictions publiques sur ce domaine-là. C'est-à-dire que il est globalement anti-RN à chaque fois. Il fait de la lutte contre ce qu'il appelle l'extrême droite, quelque chose d'important. Il lutte, par exemple, notamment à travers une association, pour faire mettre de la diversité au sein de la justice, parce qu'il va considérer, par exemple, que si vous avez un prénom ou un nom d'origine africaine ou arabe, eh bien, finalement, vous vivez une discrimination dans ce pays. Donc, ce sont des opinions qui sont affichées, revendiquées. Il a même fait un livre. Il a fait un livre. Et en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est qu'il n'y a pas de problème de parler de ce juge dans une dépêche AFP. Il n'y a pas de problème de le recevoir sur tous les plateaux de télévision. Il était chez Quotidien également, chez Quotidien. Donc quand on parle en bien de ce juge, il n'y a aucun problème. En revanche, si on se permet de critiquer la décision de justice de ce juge, là, eh bien, ça devient un problème, voyez. Et c'est l'immense arnaque qu'on a depuis quelques jours. Et aujourd'hui, en fait, on est en train d'étendre ça aux avocats en droit des étrangers. Parce que les avocats en droit des étrangers qui m'ont attaqué pour doxing, on a l'impression qu'en fait, ils étaient secrets, qu'ils voulaient rester de leur côté, ne pas être connus du grand public. Mais c'est faux. Certains de ces avocats étaient médiatisés. Ils travaillaient pour l'association Utopia 56, ils recevaient des prix pour leur action pour les clandestins. Il y avait des journaux, des articles de l'Humanité et de Mediapart qui disaient « ils sont géniaux ces avocats parce qu'ils cassent plein de décisions administratives devant le tribunal administratif ». Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'Humanité et Mediapart vont parler de ces avocats en bien, c'est autorisé. Et sinon, on a une approche critique, en fait, c'est interdit. Donc on a mis en place un système où on va permettre à des juges et à des avocats de faire preuve de propagande dans les médias. Je ne parle pas de leur travail, ils ont le droit d'exercer leur travail, évidemment, tout comme ils ont le droit d'avoir des opinions. Mais ils ne peuvent pas les revendiquer publiquement et ensuite, lorsque quelqu'un les critique, leur dire « vous faites du doxing et on vous condamne à 6 mois de prison avec sursis ». C'est ça qui est parfaitement délirant.
Et c'était intéressant d'avoir votre témoignage. Et ce juge peut avoir toutes les convictions politiques, associatives, évidemment, qu'il souhaite. J'ai vu voir aussi qu'il avait été primé, si mes souvenirs sont bons, et qu'il est... primé aux côtés de la présidente, c'était pour un prix, je crois, ces derniers mois, et la présidente du jury, c'était Najat Vallaud-Belkacem, dirige France Terre d'Asile.
Bon, tout soutien.
La question, c'est est-ce que vous arrivez à mettre vos convictions à l'extérieur du tribunal pour juger un tel dossier? Est-ce que c'était à lui, par exemple, de dire... Moi, président de cette cour correctionnelle, je ne suis pas en capacité, entre guillemets, de juger Éric Tegner, puisque mes convictions affichées publiquement d'ailleurs et ma mobilisation associative fait que je vais manquer à l'impartialité que je dois avoir. Un juge peut
s'auto-déporter. Oui, non. Il ne le fera jamais.
Il ne le fera jamais. Est-ce qu'il peut le faire?
Bien sûr qu'il peut le faire. En conscience, il peut dire « je ne peux pas juger cette affaire car j'ai un intérêt contraire ».
Et un avocat peut-il demander à ce que ce soit un autre juge qui juge?
Bien sûr, et je crois que l'avocat d'Éric Tegner l'a écrit sur ses réseaux. S'il avait été porté à sa connaissance l'orientation politique du juge, il aurait déposé une requête en récusation. Bon, c'est peut-être arrivé un peu tard, mais l'avocat, quand il est informé d'un positionnement, d'une orientation politique, sur le magistrat qui va rendre la décision le lendemain, peut évidemment déposer une requête en récusation.
Ils ne le font pas, vous savez bien.
Moi, je le fais.
L'avocat Nicolas Sarkozy ne l'a pas fait.
Moi, je le fais.
Conscience, il ne l'a pas fait.
Mais vient de voir.
Chacun son choix.
Voilà.
Oui. Après, je ne suis pas certain.
Ça n'aboutit pas.
Je ne suis pas certain que ce soit extrêmement utile. Pardon, je vais être un peu la voix dissidente là à l'instant.
Et tant mieux.
Mais que ce soit extrêmement utile de viser le juteux business des avocats spécialisés en droit de l'immigration, dont je ne suis pas, parce que ce sont d'abord des techniciens, ce sont des artisans, parfois des spécialistes, et que je crois qu'il faut se réjouir quand ces techniciens-là arrivent sur un moyen de procédure, parce que c'est la règle de droit et que c'est l'état de droit, à infirmer une décision devant une cour d'appel.
Il a le droit de les critiquer, quand même.
Mais il a le droit de les critiquer.
C'est ça le vrai sujet.
Je ne suis pas certain que j'aurais adoré avoir mon nom dans cette dans cette liste-là sous le titre « juteux business des avocats ». Je ne dis que ça.
Je ne crois pas qu'il ait dit juteux. Hein.
Alors, s'il ne l'a pas dit.
Non, non, je crois
tant mieux, pas c'est ça. Mais Eric est peut-être encore là.
Il n'a pas dit c'est ce qu'on lit.
Mais juteux, c'est une formule qui vous appelle à être condamné par la justice. Eric, vous aviez parlé de juteux, non. C'est ça, business. Mais bon, c'est un détail.
Que, effectivement, il y a un business parce qu'en fait, ils ont multiplié les procédures pour faire en sorte de gagner beaucoup plus d'argent. Et ces dernières années, le Conseil constitutionnel a permis que l'aide juridictionnelle soit donnée aux clandestins. Ce n'était pas le cas il y a plusieurs années.
C'est leur job. Et je vous rassure, vous serez ravis que votre avocat...
Je vous assure qu'il y a un immense respect pour les avocats, je vous le garantis. Moi, ce que je note, c'est que ces avocats n'ont aucun problème.
Allez-y, Eric, et il va vous répondra, Grégory Lévy.
Certains de ces avocats n'avaient aucun problème d'aller dans les manifestations pour défendre les sans-papiers, n'avaient aucun problème d'être dans l'Humanité, dans Mediapart, pour revendiquer des opinions idéologues. Parce que, pardonnez-moi, moi j'ai passé 12 heures dans ce tribunal. Et je vous avoue, c'était de la politique. Et même, j'ai adoré ça. C'était un débat politique, mais c'était pas un débat technique. C'était pas un débat juridique. J'étais face, notamment parce que il dans cette histoire de juge qui est raisonnable, plaider le fait que le tribunal de Bobigny était incompétent. Pourquoi ? Parce qu'on a gagné nos procès à Marseille, on a gagné nos procès à Saint-Brieuc, parce que c'est 40 différents avocats qui ont porté plainte sur toute la France. Et là, cette fois-ci, ils ont choisi de saisir le tribunal de Bobigny, alors qu'aucun avocat exerce à Bobigny. Normalement, ça aurait dû être une incompétence qu'on a plaidé avec maître William Golnadel et maître Pichon. Et après, j'ai compris pourquoi ils ont saisi le tribunal de Bobigny, parce qu'ils savaient qu'ils pouvait être devant ce juge et que derrière, c'était une décision politique. Pardonnez-moi, on a le droit de faire une enquête sur les avocats en droit des étrangers parce qu'au contraire, on n'a pas dit que c'était de leur faute. On a dit que c'est un système aujourd'hui administratif où il y a des journalistes, où il y a le Conseil constitutionnel, où il y a des juges, où il y a des avocats qui font partie, qui font en sorte que finalement, on n'arrive jamais à expulser. Et on a tout étayé, on a tout chiffré, on a donné un droit de réponse. C'est ça qui est important de souligner. Et moi, ce que je tiens à noter, parce que j'ai vu que vous étiez avocat au barreau de Paris, eh bien, j'avais l'ordre des avocats du barreau de Paris qui représentaient là. Je les avais et ils étaient représentés par un avocat qui était l'ancien candidat aux législatives pour la France insoumise en 2024. Alors pardonnez-moi, c'était bien un procès politique. J'avais en face de moi notamment le syndicat des avocats de France qui à chaque entre-deux-tours de l'élection présidentielle appelle à voter contre Marine Le Pen. C'était bien politique. Donc moi je veux bien qu'on dise c'est une profession, ils font uniquement leur travail. Non, ils ont assumé une idéologie et ils l'ont assumé devant le juge et devant moi.
Merci Eric Tegner. Peut-être souhaitez-vous répondre